André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous abordons la dernière émission de la série consacrée à la vie et l'œuvre des deux artistes duettistes Jean Poiré et Michel Serrault, avec nos deux comédiens, Françoise Bénard et Philippe Merlane. Bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Bonjour André, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. En 1960, les films s'enchaînent pour Poiré comme pour Serrault. Le cinéma les occupe de plus en plus régulièrement. On les retrouvera sur les scènes de tous les grands cabarets parisiens durant des années 60. D'autres sketchs arriveront dans leur carrière, comme La Circulation, traînée sur la scène de La Tête de l'Art, en 1965. De leur côté, ils obtiennent de gros succès au théâtre. Fleur de Cactus, de Barry et Grédy, pour Poiré, Quand épouserez-vous ma femme, une pièce anglaise, et Monsieur Dodd, d'Arthur Watkin, pour Serrault. Durant les vacances d'été, en 66, ils envisagent l'écriture d'une nouvelle pièce, Pécari Soupe, rebaptisée Opération Lagrelèche. Le spectacle, à l'origine d'une durée de 4 heures, sera finalement ramené à 2 heures. L'avant-première aura lieu au Théâtre Fontaine le 1er décembre 66. Le public se rue au guichet du théâtre. Chaque soir, le spectacle fait salle comble. Cette pièce sera reprise de septembre 67 jusqu'à avril 68. Et en 68, Serrault joue à la Michaudière, la nouvelle pièce de Marcel Achard, Gugus. Poiré, de son côté, anime les ondes de la station de radio Europe numéro 1 chaque dimanche en compagnie de Roger Carrel et d'un jeune animateur, Jean-Pierre Foucault. Et cette année-là est programmée à la télévision la première d'un grand show, les grands enfants, des jeux, des sketchs, des improvisations avec, hormis Poiré et Serrault, une bande de joyeux de rire. Jacqueline Maillan, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Maurice Birot, Sophie Desmarais. Au tout début de l'année 1969, leur retour sur les planches avec une pièce de Récounet, Le Vison Voyageur. Avis critique très partagé. Cette pièce sera reprise au Théâtre du Gymnase le 26 août et affichera complet tous les soirs. La même année, en tant qu'acteur et auteur, ils sont à l'affiche du Théâtre de l'Athénée pour la pièce Les Grosses Têtes. Semi-échec et mauvaise critique. Poiré Serrault arrêtent leur folle tournée des cabarets, d'autant qu'entre-temps, certains ont changé de registre de spectacle. Et c'est la mode des pipe-shows. Poiré quitte le cercle trop étroit pour lui des sketchs et des revues. Le succès de sa nouvelle pièce, Douce Amère, le lui permet en 70. Il est parvenu à prouver qu'il était bon auteur et à les poindre un excellent écrivain en Poiré et en Serrault, un prodigieux comédien. Leur sketch repose sur un effet de miroir. Poiré revêt les atours d'un clown blanc, en apparence sérieux, et Serrault celui d'un Auguste, ce clown au nez rouge qui fait pleurer de rire les enfants. La mécanique est imparable. Sur un débit saccadé, Poiré lance les sujets, et puis la répartie de Serrault fuse, assortie d'une mimique qui n'appartient qu'à lui. Ce don unique lui vaudra 3 Césars, 30 ans après. Voici la première partie d'un sketch interprété par Françoise et Philippe, Le permis de conduire les orchestres. Poiré disait « J'aime bien discuter avec Michel parce que c'est un homme avec qui on peut parler de tout. On s'intéresse aux mêmes choses, en l'occurrence aux mêmes formes d'humour et de comique. » Et tous deux amateurs éclairés de musique classique, avec le permis de conduire les orchestres, ils s'offrent un terrain de jeu à leur goût et à leur démesure. Serrault disait également « Jean annonçait Albert Petit Lagrelèche comme un très grand compositeur, jouant comme toujours de façon très réaliste, car notre héros et notre numéro exigeaient de nous une maîtrise totale. Il fallait que tout apparaisse normal pour créer le rire. Je rentrais sous de chaleureux applaudissements, tant il est vrai que beaucoup prenaient tout cela au sérieux. » Françoise et Philippe, voici le permis de conduire les orchestres, la première partie.
Demain, salle Pleyel sera donné en première audition avec les concerts Pas de loup, Ode au commerce, un poème symphonique d'Albert Petit Lagrelèche. Je dois préciser pour les personnes qui ne seraient pas très introduites dans les milieux musicaux qu'Albert Petit Lagrelèche est considéré à l'heure actuelle comme le chef de file de la jeune école de musique française. Il est venu ce soir très gentiment après sa répétition salle Pleyel pour nous dire quelques mots et nous parler de son œuvre en général. Voici Albert Petit Lagrelèche. Cher maître, si vous voulez bien venir jusqu'ici.
Merci.
Maître, je n'ai pas besoin de vous demander si vous êtes ému à la veille d'un jour comme celui-ci.
Je vais vous dire, mon cher ami, on est toujours un peu ému, et surtout quand on conduit pour la première fois. C'est certain.
Mais ce n'est pas la première fois que vous conduisez.
Si, c'est la première fois que je conduis, oui.
Mais comment ça?
J'ai eu mon permis avant-hier. Alors, vous voyez, c'est tout récent.
Votre permis?
Mon permis de conduire.
De conduire?
De conduire les orchestres.
Parce qu'il faut un permis de conduire pour les orchestres maintenant.
Ah oui. Depuis 6 mois, on exige le permis. Ah oui.
Je ne savais pas.
Ah si. Ah, mais il y a eu trop d'accidents, trop de couacs, trop de notes écrasées. Et maintenant, on exige le permis. Oui.
Il est certain que les gens dépassent la mesure bien souvent. Alors, ils la dépassent sans prévenir, naturellement. Il faut un permis.
Il faut un permis.
Et vous avez le vôtre depuis avant-hier?
C'est ça, oui, exactement.
Mais vous l'avez eu in extremis.
Oui. Je précise, quand je parle de mon permis de conduire les gros orchestres.
Oui,
les orchestres symphoniques.
Permis poids lourd, en quelque sorte.
Oui, parce que jusqu'à présent, je n'avais conduit que des quatuors à cordes. Alors, je n'avais besoin que de mon permis simple. Vous voyez à peu près.
Vous l'avez passé sur quoi, ce permis poids lourd, là?
Sur pas de loup.
Sur pas de loup?
Un engin terrible.
Ah, c'est ce que j'allais vous dire.
Ah, ça fait quand même 80 musiciens fiscaux. Ah. Alors, vous savez, quand vous avez ça sur le dos, il faut les traîner.
Ouais. C'est nerveux, malgré ça.
L'ensemble est nerveux, oui. Surtout les violons.
Les violons?
Les violons ont des reprises fulgurantes.
Ça, c'est important.
Et puis alors, évidemment, il faut bien changer de vitesse à chaque mouvement. Sinon, vous esquintez votre orchestre, et ça, c'est normal.
C'est normal. Alors, je vais vous dire, il y a un manque de prudence qui est à la base de 80% des accidents. Ça... on ne peut pas l'éviter.
Non, il faut faire très attention. Quand vous avez une corde de violon qui pète dans un chargeau, alors croyez-moi, ça fait le raffut.
Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Un accident comme ça, c'est...
Ce qu'il faut faire, c'est laisser glisser l'archer jusqu'à la fin de course, c'est tout.
Oui, faut pas essayer de redresser, là, de rattraper la note, de faire une manœuvre quelconque, non?
Moi, surtout pas, parce que vous risquez de l'écraser. Alors ça, c'est terrible.
Moi, je sais que j'ai été témoin d'un accident d'orchestre comme ça il y a 3-4 ans chez Colonne. Ça m'est resté marqué. J'ai assisté à une crevaison de grosse caisse dans un passage rapide de la deuxième rhapsodie de Liszt.
La deuxième? Oui. Mais elle est mauvaise aussi.
Ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Elle est mal signalée surtout. Et c'est une rhapsodie très mal signalée.
C'était à quel endroit?
Je sais pas si vous connaissez cette...
Je connais bien la région, oui, mais enfin...
C'est dans la petite montée.
Je vois pas très bien, hein.
Il y a un moment où ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est ça, c'est...
Oui.
Dans la grimpée.
Oui, alors elle est terrible. Elle est terrible parce que c'est une montée chromatique.
Mais je vais vous dire, c'est quand même de leur faute parce qu'ils ont attaqué comme des fous.
Oui, bien sûr. Oui.
2000-2500 notes à la minute. Enfin, vraiment, vraiment des démons. Moi, j'étais à la corbeille, j'étais de face. J'ai vu arriver l'accident. Il y avait ma femme à côté de moi. J'ai dit, il va y avoir un coup dur. Ils ont attaqué. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vous savez, en accélérant. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Paf! Un éclatement.
Oui. C'est pour ça que vous avez eu beaucoup de conducteurs qui évitent cette montée.
Ah bon?
Qui prennent un raccourci. Tinanananananan, pam! Et c'est fini, vous voyez.
Ah, ça, c'est moins pittoresque.
Oui, d'accord, mais enfin, on est sûr d'arriver. Ça, c'est important.
Mais je ne savais pas du tout pour ce permis de conduire des orchestres, là, vraiment. C'est très bien.
Mais naturellement.
Mais c'est une mesure qui devrait s'étendre.
Oui, je vais vous dire, les examinateurs sont très sévères.
Et qu'est-ce qu'il y a alors à l'examen?
Mais vous avez d'abord la conduite, et puis des questions à l'oral.
Mais et qu'est-ce qu'ils vous ont posé comme question?
Alors, trois questions. Alors, pas facile d'ailleurs. Hein. Quand doit-on s'arrêter? Est-ce que vous savez ça?
Je ne sais pas, non.
Eh bien, on doit s'arrêter dans un concerto pour laisser passer le soliste.
Ah oui, des choses évidentes.
Ben, si vous avez le feu dans un orchestre, ça arrive malheureusement quelquefois.
Oui, mais enfin, ça ne doit pas être fréquent quand même.
Ben, si, ça arrive, croyez-moi.
Le feu dans un orchestre, dans une fosse?
Oui, ben, les hautbois, l'été qui chauffe.
On me l'avait dit.
D'ailleurs, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on interdit de fumer en jouant du hautbois.
Ah, de toute manière, je ne pense pas que ce soit tellement pratique de fumer.
Ce n'est pas que c'est pas pratique, c'est interdit.
Oui, d'accord. Mais bon, mais en dehors de l'interdiction...
Non, mais je suis en train de vous expliquer, on ne doit pas fumer en jouant du hautbois.
Oui, mais je comprends bien, mais je vous dis...
Mais il n'y a pas à dire. On ne doit pas, on ne fume pas, voilà. On ne doit pas fumer en jouant du hautbois. Un point, c'est tout. Enfin, si malgré ces recommandations, vous avez le feu dans un orchestre, eh bien, aussitôt, la musique intervient. Et heureusement.
Et quelle musique?
Mais la musique de la flotte.
Mais pourquoi faire?
Pourquoi faire? Mais pour vous inonder. Pourquoi faire?
Mais de quoi?
De l'alo.
De quoi?
L'alo. Vous ne comprenez pas ce que ça on vous dit. On vous dit l'alo. On vous dit Édouard l'alo, le pompier.
Ah, le pompier. Ah, je ne suis pas au fait de la musique que vous.
L'humour de Poiré et Serrault suit un fil rouge que Michel Serrault définira une bonne fois pour toutes. C'était plus fort que nous. Il fallait que nous fassions déraper la moindre de nos conversations. C'est de cette façon que nous avons bâti tous nos sketchs. Poiré jouera dans sa pièce D'où sa mère. Il abordera en tant qu'auteur sa vie, ses rapports avec les femmes, ses angoisses. Souhaitant renouveler le vaudeville, Poiré, selon les critiques, s'est trompé de cible. La pièce tiendra 6 mois, l'affiche au Théâtre de la Renaissance, dans une mise en scène de Jacques Charon. De son côté, Serrault joue les « Bons hommes » de Françoise Dorin, au Théâtre du Palais Royal, au milieu d'un éreintement général à l'adresse de l'auteur. Serrault tire admirablement son épingle du jeu. Au cinéma, sa carrière est bien lancée. On lui proposera les premiers rôles. Son premier rôle vedette, Le Viager, de Pierre Tchernia, en 71. Cette année-là, le duo devient à la télévision, le 15 mars, sur la deuxième chaîne couleur pour une émission spéciale Poiré et Serrault sur la 2. Deux sketchs d'anthologie dans ce programme, L'Imparfait et La Découverte de la Femme. Ils seront invités le 22 mars dans l'émission L'Invité du Dimanche. Poiré jouera Le Canard à l'Orange de William Douglas Home au Théâtre du Gymnase. Première le 6 mai. Immense succès. Le théâtre ne désemplit plus. Poiré n'en abandonne pas ses projets. Il les confie à un journal. Nous retrouverons avec Serrault dans une pièce que je viens d'écrire, même si elle n'a pas encore de titre. Je peux vous dire que c'est l'histoire d'une amitié particulière qui a pour cadre une boîte de nuit. On ne nous verra pas toujours dans des habits d'homme. Cette pièce fera jaser. Il prépare une série hebdomadaire avec Serrault de 4 émissions diffusées en direct, une sorte de pastiche des rendez-vous du dimanche. Une production très populaire auprès des téléspectateurs. Il a droit à une émission spéciale le 17 août afin d'y fêter ses 45 ans. Le Canard à l'Orange est repris le 1er septembre au Gymnase. Le président Georges Pompidou souhaite s'y rendre. Le protocole de l'époque lui interdisait de fréquenter les théâtres privés. Le Canard à l'Orange s'envolera jusqu'au palais de l'Élysée. 1972, le cinéma, Serrault a une carrière de plus en plus prometteuse. Il participe à l'émission télévisuelle Vive le cinéma. Poiré, toujours triomphant chaque soir, retrouve les chemins de la radio Europe numéro 1. Radio le matin, écriture l'après-midi et théâtre le soir. 4 heures de sommeil, dit-il. Le directeur du Théâtre du Palais Royal cherche un programme de remplacement cet été-là, durant la relâche de la pièce Oscar. Louis de Funès, épuisé, a demandé 3 mois de repos. Il souhaiterait un show estival autour de 100 ans d'opérettes et de comédies musicales. Poiré est sollicité. Il relit par un texte des extraits d'opérettes de la grande époque en 24 tableaux et 3 heures de représentation. Il était une fois l'opérette avec des grands noms, genre Maddy Mesplé, Jeanne Rhode. Et le 1er septembre, il faut rendre la salle à Oscar et de Funès, mais le spectacle part en tournée jusqu'en avril 1974. Serrault, lui, est le tombeur, une pièce de Neil Simon. Pour finir l'année et fêter Noël, la deuxième chaîne de télé commande à Pierre Tchernia un conte de Noël dont les hôtes seront Poiré et Serrault. Et c'est ainsi qu'il écrit avec Pierre Etex et Goscinny, aujourd'hui à Paris. Le 3 janvier 1973, Poiré quitte définitivement le rôle dans Le Canard à l'Orange, au bout de 450 représentations, pour se plonger dans l'incroyable aventure de la cage aux folles. Poiré triomphait depuis mars 1971 avec Le Canard à l'Orange. Il avait promis au directeur du théâtre du Palais Royal une nouvelle pièce pour la rentrée 1972. Il en écrivait un peu chaque nuit. Or, constatant qu'il ne tiendrait pas ce délai et ne voulant pas abandonner Le Canard à l'Orange en plein triomphe, il s'engage à achever l'écriture de cette pièce à l'automne. Poiré et Serrault attendent le moment de leur retrouvaille scénique. Trois longues années qu'ils n'ont pas joué ensemble. Après une réécriture totale du final de la pièce due aux critiques constructives lors de la couturière, le rideau se lève le 5 février 1973, dans l'assistance ce soir-là de nombreuses célébrités. Des éclats de rire en cascade. Déjà, de l'improvisation au détour d'une réplique. Le 13 février, devant une folle semaine de triomphe, le directeur du théâtre organise une gigantesque soirée de gala. Aux invités, il a offert un flacon de parfum aux folles de Guy Laroche et aux hommes, ça c'est pour les hommes, le flacon de parfum, et aux femmes, un sac à main. Ils auront joué 1300 fois, chaque soir c'était différent. La preuve est que la pièce ne se terminait jamais à la même heure, cela allait de 23h20 jusqu'à minuit 10, sans jamais desservir ni l'intrigue, ni les caractères, et toujours en respectant la situation. Les deux comédiens seront remplacés plusieurs fois. Poiré écrit, Serrault tourne. La pièce sera reprise aux variétés, puis au théâtre Montparnasse. Poiré précise avoir joué la pièce 2647 fois sur la scène du Palais Royal. Seuls deux extraits de La Cage aux Folles ont été captés. Voici la deuxième partie du sketch, le permis de conduire. De conduire les orchestres, bien sûr, avec nos deux comédiens.
Tenez, moi un jour j'ai assisté à un sauvetage comme ça dans un orchestre.
Un incendie ?
Non, un corps. Un corps qui s'est noyé dans la mer de Debussy.
Oh, elle est mauvaise aussi, celle-là.
Elle est terrible, parce que vous avez des instruments à vent qui font des vagues.
Oui, je sais bien.
Eh bien, cinq minutes plus tard, la musique était là et intervenait.
La musique de la flotte ?
Non, la musique de l'air. Cette fois, la musique de l'air.
Oui, mais pourquoi faire ?
Pour la respiration artificielle.
Avec quoi ?
Avec un tuba branché à une bouteille d'air comprimé du barbier de Séville. Il lui a envoyé tout de suite de l'air du Figaro.
Mais pourquoi spécialement l'air de Figaro ?
C'est ce qui est recommandé dans ces cas-là, à cause du refrain. Laissez-moi respirer.
C'est le côté chef d'orchestre d'Albert Petit-Lagrelèche. Ce pourquoi on vous a demandé de venir aujourd'hui, c'est surtout le côté compositeur.
L'autre face du personnage.
Je sais que vous n'en êtes pas à vos premières armes, car aussi bien dans la chanson que dans la musique religieuse, que dans la symphonie, vous avez abordé tous les genres. Et je dois dire, un fait très rare, vous avez abordé tous les genres avec le même bonheur. J'ai tous vos enregistrements chez moi et vraiment, c'est un régal de vous entendre.
Mais j'ai en effet, comme vous dites, abordé tous les genres. Mais je suis quand même resté un symphoniste.
Oui, mais vous êtes resté un classique.
Un classique malgré tout. Parce que si vous connaissez bien mon œuvre, j'ai écrit évidemment un tas de choses, mais entre autres énormément de magnifica et énormément de...
Choses très rigolotes d'ailleurs.
Oui, j'ai des messes en ré également.
Ah oui, très très charmant.
Des réguiems aussi, des chœurs polyphoniques du XIIe siècle.
Mais vous venez de terminer aussi une œuvre importante.
Je viens de terminer une messe pour le sacre de Louis XV.
Ah oui.
Seulement, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse maintenant ? Voilà. Ah,
On a beau dire, hein, ça vient tard. Ah, je crois vraiment que quand on veut vivre de sa musique, de son œuvre à l'heure actuelle...
Bah, il faut composer pour son temps, il faut s'adapter.
Et quand je vois que ça a su faire un garçon comme Lopez...
Remarquable, hein, Lopez s'est adapté.
Et qui partait d'un certain classicisme.
Ah ben, il a adapté son requiem, vous connaissez le requiem de Lopez.
Requiem pour clarinette.
Non, je vois arriver. Non, pas pour clarinette, non, pour clavecin. Orchestre et Mariano solo. Et il en a fait un hymne pour l'amour.
Eh oui, ça reste une forme médiévale.
Mais adaptée. C'est un effort qu'on ne trouve pas chez les musiciens du siècle dernier.
Je ne me rends pas compte.
Mais pensez donc que Beethoven n'a pas laissé la moindre rumba.
Mais ce sont des garçons qui se sont cantonnés dans un genre plus de leur époque. Ils sont restés typiquement, d'ailleurs, de leur époque.
Mais exactement.
Il y a peut-être que Wagner qui se rapprocherait de nos cadences à nous, vous savez, de nos rythmes modernes un petit peu... Par moments, ça frôle le musette. Enfin, par moments. Enfin, pas tout le temps.
Wagner?
Oui.
Bah, dans quoi?
C'est peut-être plus net dans Tristan, peut-être. Il y a des passages de Tristan.
Ah oui? Mais par qui l'avez-vous entendu?
Moi? Je l'ai à la maison, je l'ai par Aimable et son orchestre. Ah, ça vient peut-être de là, remarquez.
Oui, je vais vous dire. Ça vient sûrement de là, oui.
Ça vient de l'interprétation, certainement. Ça ressort.
Oui, oui.
Alors, ultime question avant de vous laisser retourner à vos musiciens. Quelle est la chose qui vous a inspiré l'œuvre que nous allons entendre demain pour la première fois, en première audition? Qu'est-ce qui vous a inspiré cette ode au commerce?
L'épicerie fine.
Oui, je sais bien. Puisqu'en dehors de votre activité de musicien, votre violon dingue, c'est la confiserie.
Oui.
Non, je veux dire que... Quel est le thème de cette œuvre?
Eh bien, c'est un épisode de la lutte du petit détaillant contre les pouvoirs publics, voyez. Oui, c'est tout simple.
C'est une fresque, quoi.
Ouais, c'est un poème symphonique en trois mouvements, en trois parties. Premier mouvement Andante, les beaux jours d'après-guerre.
Oui.
Deuxième mouvement Adagio, retour à la taxation. Quelque chose de plus grave, voyez, de plus pénible, n'est-ce pas? Et enfin, troisième mouvement, Allegro vivace finale. Liberté des prix, avec montée, montée.
Montée orchestrale.
Orchestrale et orchestrée, les deux à la fois.
Eh bien, je vous remercie et nous irons vous applaudir demain.
En 1955, un éditeur publie l'unique ouvrage réunissant leurs principaux sketchs, sous le titre « Tête à gifle ». La même année, l'enregistrement de leurs deux sketchs chez RCA vaut le Grand Prix de la ville de Paris du disque français. Sur ce vinyle, on y trouve Les Embarras de Paris, Voyage en Corrèze, Permis de conduire, Au Salon des Antiquaires avec Jacqueline Maillan, les interviews d'Auguste Braquillier, président, les 45 petits tours d'Albert Lagrelèche. Sur 80 de leurs sketchs, il ne reste pas grand-chose en documents sonores. Quelques-uns sont enregistrés en studio. Les meilleurs documents sont captés au cours des galas ou d'émissions de radio comme La Boîte à sel, animée par Robert Roca. Le reste appartient à l'histoire. Ils ne joueront plus ensemble sur la scène. Poiret continuera à écrire L'Impromptu de Marigny, Féfé de Broadway, Joyeuse Parc, Les Clients. Il réalisera un film, Le Zèbre, et en tournera dans une douzaine, dont deux avec Serrault. Ce dernier tournera encore plus de 80 films, quelques téléfilms et un feuilleton, Les Folies Offenbach. Merci Françoise et merci Philippe de nous avoir plongé avec l'interprétation de leurs sketchs pendant cette série de 7 émissions dans l'univers de Jean Poiret et Michel Serrault. Notre émission est maintenant terminée. La citation du jour, les sketchs sont une chanson de petites histoires faites pour que l'on s'y reconnaisse ou qu'on le reconnaisse son voisin. Elle est de Jean-Loup Dabadi. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, Et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale, fncta-medipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler, 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité joué, mise en scène éclairée et sonorisée par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Bonne journée à tous.